Chapitre 24. Ce fut Jacques Mestral qui, vers le milieu de décembre, découvrit dans un journal d'annonce la demande d'un instituteur pour le petit orphelinat rural mixte, connu sous le nom de Près du Camp et sous le sobriquet de Ficheton Camp, dans un district de montagne assez restreint et parfaitement inconnu du reste du monde. Cet orphelinat ne faisait pas de collecte, ce qui expliquait son obscurité. Il vivait d'un vaste domaine et d'un capital, légué dans des temps lointains, administré par un comité qui se recrutait lui-même. Il n'était pas tenu de publier des rapports, mais il le faisait néanmoins de 7 en 14. L'État le faisait inspecter officiellement et les communes qui y plaçaient leurs orphelins leur envoyaient de temps à autre un visiteur. L'annonce ne mentionnait ni le chiffre des appointements, ni le nombre des heures de travail. Donna envoya ses papiers immédiatement et fut invité par retour à aller se présenter. « Veni, vidi, vici » fit-il en riant quand il revint, car toute la transaction n'avait pas duré plus de 3 jours. « Je suis accepté, j'entre en fonction le 20 de ce mois. 500 francs par an, ce qu'on donne à une cuisinière. Le nombre d'heures, impossible de le fixer, c'est à bien plaire. » 24 heures par jour, probablement, pour le moins. Mais je n'ai pas le droit d'être difficile. Le directeur me déplaît. Sa femme avait une fluxion qui lui gâtait un peu la physionomie. Ils ont une fille et un fils. Je dormirai dans un angle du dortoir des garçons, derrière un rideau rouge. J'ai vu des cuvettes en fer blanc, mais pas de brosse à dents. Du reste, je n'avais pas non plus de brosse à dents chez Martin Coquart. Il était accouru avec sa nouvelle chez Jacques Mestral, dans la chambre du cher camarade, toujours prêt à sympathiser. « Comme ça, tu nous quittes, » fit Jacques d'un ton de regret. « Et je ne t'ai pas encore converti à la sociale. »« Tu m'as converti en sens inverse, » s'écria son ami. « Ces copains qui t'exploitent me dégoûtent. Mais parfaitement, ils t'exploitent. Tu es leur vache à lait. » Jacques haussa les épaules. « Il faut un sacrifice pour commencer, » dit-il. « Tu verras qu'ils se rangeront. Ils comprendront que le bien commun demande l'effort de tous. Ils sont encore un peu comme des gamins en vacances. Morel est un chic type. Il me soutient, celui-là. »« Oui, Morel est sérieux, » concéda Donat. « Mais je te garantis qu'il fait la grimace le samedi de paix quand il voit Fabre la flemme recevoir une part de plus que lui. » « Parce que Fabre a 5 gosses, » fit Jacques un peu troublé. Morel était d'accord sur le principe au début. Et ses yeux noirs se fixèrent sur le visage de Donna avec une étrange intensité. Il venait de quitter le coin du petit canapé en modeste cretonne, où il était assis à droite de son ami pour se placer en face de lui sur une chaise et pour le dévorer, semblait-il, du regard. « Je n'ai pas fait de mal, » fit Donna en riant. « Tu me transperces. » « Quand est-ce qu'on se reverra ?» demanda Jacques par façon de répondre à cette remarque. « Moi, je n'aurai pas de vacances, mais viens me voir un dimanche. 2 heures de chemin de fer, ce n'est pas la mort d'un homme ni de sa bourse. » Ils se quittèrent sur des promesses et de bons vœux de part et d'autre. Donna Brunel n'avait que 2 jours pour ses préparatifs et ses adieux. Ce qui le troubla énormément, plus encore que sa visite au Jean Richard, où il laissa pour Esther un message soigneusement composé, ce fut une lettre qu'il reçut de son père à l'instant même de son départ, qu'il fourra dans sa poche et qu'il lut dans le train. « Mon cher fils, disait Jules Brunel, j'espère que tu te portes bien et que tu es content de tes affaires. Je voudrais pouvoir en dire autant, mais c'est juste le contraire. » J'ai travaillé et je me suis conduit chez ces anabaptistes comme un saint des derniers jours. D'abord parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement à moins de décamper. Je n'aurais pas voulu te faire cet affront du moment que tu m'avais placé. Mais le fait est, mon fils, que je n'ai plus de santé. Ils me l'ont ruiné là-bas, je suis anémique. La conséquence, c'est que je m'enrhume pour un rien. J'ai maintenant une bronchite que tous les maux de ta pauvre mère n'étaient rien à côté. Le docteur appelle cela une bronchite capillaire. Ce n'est pas que j'ai abusé du sirop de capillaire, au moins, bien qu'on ne boive guère que ça, et du café et la piquette des foins chez ces dignes personnes. Mon cœur soupire après les joies de la famille, mon cher fils, et comme je n'ai pas trouvé à me remarier ici, pour des raisons religieuses, j'espère bien que tu vas m'inviter à passer les fêtes avec toi. Tu me verras arriver à Pertan le 24 au plus tard, avec mes petites économies. Ton père pour la vie, Jules Brunel. » À la première station, Donna obtint une carte postale du chef de gare et y griffonna deux mots. « Je ne suis plus à Pertan, n'y viens pas. Lettre suit. » Il avait presque oublié son père ces dernières semaines, sollicité et retenu par beaucoup de pensées nouvelles. L'image paternelle était devenue brumeuse. Mais voici que, de nouveau, elle surgissait des limbes, énorme, distincte, écrasante. Refuser de communiquer avec lui? Mais est-ce que le silence, la froideur, est-ce que rien avait le pouvoir d'arrêter Jules Brunel? Ce fut sous le poids d'un pressentiment et avec un fantôme derrière lui que Donna descendit du train, réclama sa malle et se mit en route pour le pré du camp avec deux orphelins qu'on lui avait envoyés et une petite charrette à bras pour les bagages. Les orphelins en dessous l'examinaient. Il tirait la charrette et il ne voulait à aucun prix que Donna poussât par derrière. « Ben oui, dit l'un, pour qu'on soit engueulé quand on arrivera. Monsieur Piqueret nous surveille avec sa longue vue. Toi, Nemo, pousse !» Le site était fort joli. De la gare, entourée de trois maisons seulement, car le village se cachait plus haut, dans un repli de la montagne, on gravissait un chemin blanc en lacet à travers des prairies et des vergers poudrés de neige. Le vallon en pente, parfois resserré comme un ravin, parfois s'élargissant en terrasses boisées, creusait de son ornière le flanc de la montagne et le soleil de l'après-midi en faisait une coulée d'ombre bleue sur un bord de lumière nacrée, de blanc éblouissant sur l'autre bord. L'horizon manquait, car on avait devant soi la pente raide, derrière soi la vallée large, mais coupée par un brusque détour, et une montagne sourcilleuse, en forme de cône, détachée de la chaîne, couverte de sapins de la base à la cime, et qui semblait énorme parce qu'elle était très rapprochée. Donna s'arrêta une minute et considéra le paysage de tous les côtés. La première fois qu'il était venu, il avait déjà eu une sensation de prison. Les lointains libres et noyés de sa montagne à lui laissaient courir le rêve. Sur une des terrasses, à mi-hauteur, on voyait la façade blanche et basse de l'orphelinat entre deux groupes d'ormes dépouillés. Monsieur le directeur pouvait tenir en effet, sous le feu de son télescope, si le cœur lui en disait, tous les lacets du chemin et tout le vallon, jusqu'à la gare, au-dessous de son observatoire. Donna eut une sensation désagréable à l'idée de cette lentille braquée sur lui. Heureusement, fit-il presque sans y songer, heureusement qu'on n'entend pas avec une longue vue. Nemo, le garçon qui poussait, lui jeta un coup d'œil rapide. L'autre, celui qui tirait, se retourna au même instant et les deux orphes échangèrent un regard. Ce jeune instituteur, si jeune qu'il n'avait pas encore de moustache, pourrait-il devenir un allié? Car après du camp, surnommé Fiche-ton-camp, il y avait deux camps et la guerre en permanence. Donna considérait ces deux gamins avec une soudaine sympathie. N'avait-il pas été lui-même un ospoto, un enfant placé par l'assistance, un perpétuel petit révolté? Il se souvint de son mouton, son premier ami. Il se souvint de la maman Bouillon, une brave femme. Il avait fait du chemin. Le voilà maintenant qui, par l'ascension de la vie, se trouvait appelé à instruire, à protéger peut-être, des orphelins, des enfants de commune. Il n'en revenait pas. Il était arrivé à cette étape sans s'en apercevoir. Les deux garçons le trouvèrent bien silencieux et la confiance née de sa seule remarque dépérissait déjà comme un enfant peu viable. Au bout d'une demi-heure, on arriva. Monsieur le directeur était sur le perron, un beau perron à double rampe que bordait une balustrade en fer forgé, ancienne comme la maison qui avait un aspect de ferme manoir, la partie habitée occupant toute la façade au midi et l'aile au couchant, les étables au levant et la grange par-dessus, à laquelle on arrivait sur l'arche maçonnée d'un pont de grange au nord. Monsieur le directeur ne bougea pas de son poste culminant, il fit de la main un geste d'accueil sans descendre une seule marche. Donna monta, ayant un peu l'impression de gravir les degrés d'un trône. M. Piqueret était de taille moyenne et d'une notable rotondité. Son visage s'encadrait d'une forte barbe grise et ses joues avaient une pointe de vermillon, mais le fond était jaune. Les paupières lourdes ne se soulevaient jamais entièrement. Le regard coulait par-dessous, onctueux, contenu, une goutte d'huile. Y avait-il un venin dans cette huile ? « Je me gèle les pieds à vous attendre, » prononça le directeur. « Mais le devoir avant tout, n'est-ce pas ? Entrez. Garçon, montez la malle au dortoir. » Donna entra dans un couloir étroit peint à la chaux, puis dans un hideux petit salon qu'il n'avait pas bien regardé la première fois. Les boiseries étaient belles, très simples, du sapin patiné, moiré, doré par le temps, caché sous des plaques de cartes postales illustrées, dans un extrême enchevêtrement, sous des éventails en papier, des étagères à jour que panachaient des bouquets de graminées teintes de toutes les couleurs, bleu, rouge, violette. « Joli, n'est-ce pas ?» demanda le directeur, épiant un éveil d'admiration sur le visage de son jeune subordonné. « Ma femme a des goûts artistiques. »